Mon invité les appelle les 10 millénaires oubliés. Il s'agit de cette période qui se trouve entre les hommes préhistoriques et les Gaulois, une séquence de l'histoire qui n'appartient pas à notre culture générale. Et pourtant, il y a 12 000 ans, une invention essentielle a bouleversé le cours de l'humanité, celle de l'agriculture et de l'élevage. C'est ce que les archéologues appellent la révolution néolithique. Et il s'agit bien d'un changement sans égal pour Homo sapiens. Jean-Paul Demoule est spécialiste de cette période. Il est mon invité dans un instant à l'occasion de la publication de son ouvrage « Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire ». Ce livre sort chez Fayard et j'attendais maintenant vos questions et tous vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure.
Oui, museau de crocodile, cou de cygne et pattes de T-Rex, l'Alscaraptor était à l'aise sur Terre comme dans l'eau. Et on vous le présente dans un instant avec Vincent Fernandez du Synchrotron de Grenoble.
Et puis nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui sera consacrée aujourd'hui aux effets protecteurs du fromage pour le cœur. Vous en saurez plus tout à l'heure en fin d'émission. C'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, les 10 millénaires oubliés et la révolution du néolithique, dossier dans un instant. Avec vous, Jean-Paul Demoule, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. C'est une grande injustice que vous souhaitez réparer aujourd'hui en publiant ce livre consacré donc à cette période de l'histoire déterminante pour notre humanité qui a été totalement délaissée, donc ce sujet, dans les cours d'école.
Oui, c'est plus qu'une injustice, c'est une espèce de mise à l'écart de pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire que les programmes scolaires disaient même explicitement, on commence pour l'enseignement secondaire, on commence avec les grandes civilisations. C'est-à-dire que ces grandes civilisations finalement sont une donnée, il n'y a pas à s'interroger.
Elles sont nées d'elles-mêmes,
voilà,
quasiment.
C'est ça. Donc pourquoi, comment apparaît le pouvoir, la guerre, les inégalités, etc. C'est apparemment pas intéressant.
Et pourtant, c'est absolument essentiel, vous le rappelez. On le rappelle souvent d'ailleurs aussi à cette antenne, la naissance de l'agriculture, de la guerre, des chefs. On en discute avec vous dans un instant. On évoquera également la domination masculine avec les messages des auditeurs et des auditrices qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Voilà ce nouveau dinosaure qui est un spécimen exceptionnel pour la paléontologie, l'Alscaraptor, le chasseur amphibie, donc aujourd'hui à la une de la science, proche par sa forme des théropodes carnivores comme le tyrannosaure, mais parfaitement adapté pour chasser dans l'eau. Ce nouveau dinosaure est très bizarre. Étudié en détail au Synchrotron de Grenoble par une équipe internationale de paléontologues, eh bien on le présente, cette créature étrange, Axel, avec notre invité.
Et oui, on est au téléphone avec Vincent Fernandez, bonjour. Ah, Vincent Fernandez vient de raccrocher, je pense qu'on va le rappeler.
Ah, vous l'avez entendu raccrocher, vous?
Ah ben, c'est ce qu'on m'a dit en régie, Vincent Fernandez a raccroché.
Il a peut-être pas envie de parler de son dinosaure.
Ou alors la ligne avec Grenoble est compliquée, je ne sais pas.
Voilà, on va essayer de le rappeler dans un instant pour discuter avec lui de cette découverte. On l'a pas au bout du fil pour l'instant.
Vincent Fernandez,
il est avec nous. Bonjour.
Oui. Bonjour. Bonjour Vincent Fernandez. Vous êtes paléontologue à l'ESRF, l'accélérateur de particules de Grenoble, et vous êtes co-auteur de cette étude parue dans Nature. Alors racontez-nous pour commencer un peu l'histoire original et exceptionnel de ce fossile qui a fait, je crois, le tour du monde avant de vous arriver.
C'est ça exactement. Donc c'est un fossile qui a été illégalement braconné en Mongolie, donc on ne sait pas du tout quand, mais qui a voyagé au Japon, en Angleterre, avant de se retrouver dans les mains d'un collectionneur privé en France, qui a eu la bonne idée de contacter Pascal Godefroy, un paléontologue belge, pour lui faire part d'une découverte paléontologique intéressante.
Et pourquoi il est arrivé jusqu'à Grenoble alors en fin de course?
En fin de course, donc nous on était en contact avec Pascal Godefroy pour avoir du matériel de comparaison pour un autre projet. Et Pascal nous a dit, ça tombe bien, j'ai ce spécimen qui peut vous intéresser et qui, pour moi, pourrait être intéressant puisque j'ai besoin de le scanner pour montrer qu'il s'agit là d'un vrai fossile et non pas d'une contrefaçon.
Alors qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce petit raptor?
Et là, sa forme, quand on le voit pour la première fois en tant que paléontologue...
Il est vraiment très bizarre, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà. Ouais. Donc il a notamment, c'est son cou qui est extrêmement long. Donc on a des dinosaures avec des longs coups chez les théropodes, les dinosaures carnivores, mais celui-là ne fait pas partie d'une famille de dinosaures où on est habitué à avoir des dinosaures avec un long cou comme ça. Donc il est assez petit, il a à peu près la taille d'un canard, mais plus avec l'aspect d'un cygne. Et du coup, il a la griffe au pied qui est typique des raptors, il a une queue mais qui est un peu plus courte que ses congénères. Et voilà, donc c'est une association un peu bizarre, car ça le fait ressembler un peu à un extraterrestre. Donc on a cette association de caractères un peu bizarre.
Vous avez dit tout à l'heure, on avait besoin de le scanner. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que donc le synchrotron de l'ESRF produit des rayons X qui sont qui sont très puissants, mais qui sont on produit énormément de rayons X comparé à un scanner d'hôpital par exemple. Donc ça nous permet de passer à travers la roche et de pouvoir étudier toutes sortes de matériaux avec une très haute résolution. Donc dans le cas des fossiles, c'est pour ça nous permet de les sortir virtuellement de la roche pour pouvoir les étudier. Dans le cas présent, de pouvoir aussi voir le sédiment pour voir qu'il s'agissait bien d'un seul bloc de sédiments et pas des blocs qui avaient été collés les uns avec les autres, et aussi de pouvoir voir tout ce qui est à l'intérieur des os, la microstructure, les dents.
Vincent Fernandez, on n'a pas évoqué ces sinus de crocodile, parce que c'est une autre particularité aussi chez ce dinosaure qui manquait au tableau, non ?
Oui, c'est ça. Donc ça fait partie de ces particularités. Une fois qu'on a l'aspect général qui est un peu extraordinaire, en se penchant un peu en détail, on a découvert déjà les dents qui sont coniques, qui sont un peu recourbées à l'arrière, qui indiquent un régime piscivore, donc qui mangeait du poisson. Et sur le museau, on avait vu des petits canaux dans les os qui indiquaient, qui ressemblent à ceux qu'on trouve chez les crocodiles, et donc qui servent à une meilleure détection des mouvements et des variations de température dans l'eau.
Alors, avec cette griffe de raptor terrestre et ce museau, on va dire, de crocodile, il faut l'imaginer chasser sur terre et dans l'eau ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il était capable de se déplacer sur Terre, donc il a les pattes pour se déplacer sur Terre. Par contre, il a plutôt les dents adaptées à manger du poisson. Alors, à quoi lui sert la griffe si c'est pour manger du poisson, c'est un peu énigmatique. Mais en général, les animaux ne se contentent pas d'un seul régime alimentaire. Ils aiment bien manger un peu ce qu'ils trouvent, même s'ils sont spécialisés pour un type de nourriture.
C'est fréquent que des spécimens reviennent depuis le marché noir pour finalement être étudiés par les scientifiques ?
C'est fréquent, je n'irais pas dire jusque-là, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a vu plusieurs cas. Donc par chance, pour la science et les paléontologues, ça, les cas se multiplient. On a peut-être plus d'informations qui circulent, qui nous permettent de savoir quels fossiles sont dans le marché. Et donc, comme notamment en Mongolie, il est complètement interdit de se faire sortir des fossiles, si on a un fossile mongol dans le marché international, c'est qu'il a été sorti illégalement. Donc ça permet de mettre le doigt rapidement sur un cas frauduleux.
Vincent Fernandez, encore quelques mots sur ces particularités anatomiques. Là, ce long cou, justement, que vous décriviez tout à l'heure, il lui servait à quoi ? Est-ce que c'est un avantage pour la pêche, par exemple ?
Peut-être que ça lui donne une vision un peu plus de recul sur pour voir ce qui se passe dans l'eau. S'il doit chasser du poisson, ça lui permet de si l'eau est peu profonde avec ses grandes pattes et son grand cou, ça lui donne un peu de recul pour voir une vision un peu étendue sur où sont les proies.
Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom Alscaraptor esculei?
Oui,
ça veut dire
trouver,
quoi?
Fallait le trouver.
Alors donc raptor, c'est pour le côté rapace de la famille des droméosaures, là, comme Velociraptor par exemple. Alska, c'est pour en hommage à Alska Olsmolska, excusez-moi, qui est une paléontologue polonaise qui a fait énormément qui a apporté beaucoup, notamment à partir de matériel mongol. Et Esculei, c'est en l'honneur de François Esculei, le collectionneur français qui a rendu le spécimen d'abord aux scientifiques, puis à la Mongolie.
Donc le squelette, le fossile va retourner en Mongolie maintenant ?
C'est ça, oui.
D'accord. Merci à vous, Vincent Fernandez, pour toutes ces précisions. On a mis sur la page Facebook et aussi sur le site de la Une de la Science la vidéo qui vous montre à l'ESRF en train de travailler sur le fossile.
Tout ce qui se passe au synchrotron de Grenoble. Merci Vincent Fernandez et à très bientôt. Merci et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Europe, la lune glacée de Jupiter, a aussi sa tectonique selon une équipe de l'université de Brown aux États-Unis. C'est une forme de tectonique des calottes de glace qui forment ces longues balafres sombres à la surface du petit astre. Pour l'affirmer, les chercheurs ont créé un modèle simulant par ordinateur le mouvement de certaines zones de la croûte. Et à l'instar de ce qui se passe sur Terre, l'équipe imagine que les glaces possèdent aussi des zones de subduction où des différences de densité ou de concentration en sel contribuent à faire plonger les plaques les unes sur les autres. Les chercheurs imaginent que si certaines formes de vie sont présentes dans les océans d'Europe sous la glace, ce mécanisme serait un bon moyen d'y apporter des nutriments. Moins de jouets pour plus de créativité, pas la peine de trop gâter vos enfants à Noël, 2 ou 3 jouets suffisent. Une équipe de chercheurs de l'université de Toledo aux États-Unis s'est aperçue que les enfants sont plus ingénieux lorsqu'ils ne disposent que de quelques jouets. L'équipe a séparé 36 enfants en 2 groupes en leur donnant 4 ou 16 jouets avec lesquels s'amuser pendant 30 minutes. Ils ont alors noté sans surprise que le premier groupe s'occupait plus longuement avec chacun d'eux, mais surtout de manière plus inventive que le second groupe. Ne jetez pas pour autant encore tous les joujoux de vos bambins, évitez simplement de les donner tous à la fois. Les enfants qui sont pleins de ressources risquent de vous étonner. Et puis fini la chasse aux selfies avec les animaux sur Instagram. Après plusieurs appels de la part des grandes ONG de protection des animaux, le réseau photographique Instagram, qui réunit plus de 800 millions d'utilisateurs, s'engage dans la lutte contre les mauvais traitements des animaux sauvages. Un message va s'afficher désormais lorsque certains mots-clés seront tapés par l'utilisateur, l'incitant donc à repenser sa publication ou sa recherche. Selon les ONG, la pratique du selfie en compagnie d'animaux encourage les comportements abusifs sur la faune sauvage et aussi sur l'environnement. Cet engagement survient un mois après la condamnation à 14 mois de prison d'un Britannique se servant d'Instagram pour commercialiser les défenses d'éléphants et les cornes de rhinocéros. Allez, on part au néolithique dans un instant avec Jean-Paul Demoule, mon invité.
I don't think you realise how successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise. I'm a salamander, short with lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm a turgid, messed up little goat spitting on your horrible hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're too slow. No one cares. I'm Miami. Sausage man, the shadow licker. I'm a tiny little ghost that features in your despondent moments. The timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love. But I'm here to stay.
Baxter Dury avec Miami.
La tête au carré.
L'homme a disposé de la céramique, c'est-à-dire d'une marmite en terre, permettant de faire cuire des aliments dans de l'eau bouillante. Une céréale, ou plusieurs peut-être. Jusqu'alors, il y avait des céréales, mais des céréales de récolte sauvage. Là, la céréale cultivée, l'animal domestique. Alors, c'est immédiatement la force motrice, naturellement, pour bien des choses. Et qu'est-ce qu'il a encore inventé, l'homme néolithique, c'était déjà pas mal. Et ça a révolutionné le monde. Et ça a permis en particulier à l'homme de devenir sédentaire. Ça a été l'origine du village, de la ville. Et une ville, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est la civilisation, avec un C majuscule. C'est celle qui est encore la nôtre aujourd'hui.
Et c'était la voix de Théodore Monod en 1992, qui nous a fait un bon résumé finalement, hein, Jean-Paul oui. Demoule du Néolithique. Là, il a quasiment tout dit, en tout cas les éléments principaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est, de la... c'est effectivement, c'est un côté archéologique ce document lui-même.
Oui.
Mais, après, dans le détail, on connaît aussi des chasseurs-cueilleurs sédentaires. La civilisation avec un grand C, ce qu'on voit tous les jours, c'est pas forcément toujours très civilisé. Mais bon, c'était intéressant effectivement que à cette époque on puisse le poser. Comme ça.
C'est ça, donc en 92, là, en ce qui concerne cette archive de Théodore Monod, et en tout cas une bonne introduction pour évoquer avec vous cet ouvrage que vous publiez, Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire aux éditions Fayard. Vous êtes Jean-Paul Demoule, archéologue, professeur émérite de proto-histoire européenne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Institut universitaire de France, et vous êtes donc spécialiste du néolithique et de l'âge de fer. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tiens, puisque justement, ce livre est très didactique, il y a beaucoup de repères temporels qui sont très pratiques pour le lecteur, parce que c'est une vraie vulgarisation intelligente de cette période du néolithique. S'il faut la situer dans le temps, qu'est-ce que vous nous diriez, voilà, pour qu'on ait déjà un repère temporel?
Moi, à partir de moins 10 000, moins 10 000, moins 5 000.
Avant Jésus-Christ.
Pas après, oui.
Voilà, moins 10 000 avant Jésus-Christ, et jusqu'à quelle période?
Jusqu'à peu près à 5 000, l'essentiel est fait. C'est-à-dire, un certain nombre de régions ont mis en place le néolithique, donc l'agriculture et l'élevage, et à partir de là, ça va ensuite se diffuser à l'ensemble du globe.
Ouais, voilà, donc ce titre de livre explicite, c'est 10 millénaires oubliés et qui, pourtant, ont fait l'histoire. Pourquoi cette période, on le disait tout à l'heure, si essentielle à l'humanité, a été zappée, pour reprendre votre expression? Quelle est votre analyse, vous, là-dessus, alors?
Je pense qu'il y a une certaine paresse un peu des manuels scolaires, d'opinion, voire des médias, puisque effectivement la préhistoire c'est visible, c'est lisible, Lascaux, l'homme préhistorique, Néandertal, et puis les Gaulois, c'est difficile de pas les connaître. Tandis que ce qu'il y a avant, c'était moins spectaculaire, les villages néolithiques à fouiller, c'est les restes de trous de poteaux, de murs en terre. Des poteries, surtout en France, le néolithique est beaucoup plus spectaculaire dans d'autres régions du monde, comme au Proche-Orient, même dans l'Europe du Sud-Est, dans les Balkans, là où j'ai également travaillé. On a des poteries peintes, des statuettes extrêmement élaborées. En France, c'était, à part les dolmens et les menhirs, c'est pas quelque chose de très spectaculaire. Et puis, je pense qu'il y a cette espèce, on y faisait allusion tout à l'heure, cette espèce de d'inconscient qui fait qu'on se demande. On décide que notre mode de vie urbain, ces sociétés hiérarchisées, les rois, les armées de métier, la police, l'écriture, tout ça va de soi, donc on n'a pas à s'interroger sur les origines.
Ouais, et donc là, vous nous emmenez vraiment aux racines de ce qui a bouleversé l'humanité, qui a été vraiment... Alors, ce terme de révolution néolithique, c'est un vrai terme, on galvaude pas d'abord ce terme de révolution, et puis là, il a un vrai sens du point de vue de l'archéologie aussi. Hein.
Oui, c'est la coupure la plus radicale de l'ensemble de l'histoire humaine depuis 7 millions d'années. Pendant l'essentiel du temps, ça a été une économie effectivement de chasse, de pêche et de cueillette. Et puis il y a un moment où, en quelques siècles, quelques millénaires, on va passer à l'agriculture et l'élevage. Donc on va passer de quelques centaines de milliers d'humains sur Terre à actuellement 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, et toujours pas contrôlé. Donc la révolution industrielle ou la révolution numérique ne sont qu'une conséquence à long terme de la révolution néolithique. Alors on dit révolution, c'est effectivement, ça se fait sur, comme je disais, sur plusieurs siècles, parce que il faut maîtriser toutes les techniques de stockage des plantes, de soins aux animaux, etc. Mais c'est quand même, par rapport à l'immensité de l'histoire humaine, ça se fait en très peu de temps.
Ouais. Est-ce que c'est pas une période qui manque de héros aussi, si je puis me permettre? Parce qu'évidemment, ce serait plus identifiable aussi si on avait des grandes figures. Or, ben, il n'y en a pas tellement. Hein.
Ben non, il y a, étant donné qu'il n'y avait pas l'écriture, c'est difficile de pouvoir identifier. Il y a quelques personnages qu'on connaît, comme le Ötzi, l'homme voilà. des glaces. Ah
ben, ça, c'est la star du néolithique, voilà, finalement,
c'est ça,
aussi.
C'est hein. ça. Ouais. C'est ça et c'est le premier corps humain conservé, puisqu'on a des squelettes depuis 7 millions d'années, mais là, ouais. c'est le corps avec sa peau.
Voilà, sa peau congelée, ouais. puisqu'il a été retrouvé dans les Alpes italiennes.
Oui, c'est ça, juste à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Et cette première peau est tatouée, donc on sait qu'il y avait déjà des tatouages. Il a déjà des poumons encrassés par la pollution industrielle.
C'est vrai? Quelle pollution industrielle?
Bah, il travaillait le cuivre, c'est tout début de la métallurgie du cuivre. Il avait d'ailleurs une hache en cuivre avec lui et c'est pas toujours bon pour la santé. Puis il avait un poignard en silex avec de l'ADN de 4 ou 5 personnes et il avait une flèche logée dans le dos en silex, la flèche dont on sait pas s'il en est mort ou pas. Donc ça pouvait paraître anecdotique quand on l'a trouvé, mais d'une certaine manière ça résume des tas de choses pour cette période et surtout pour les conséquences de cette période.
C'est ça. Et c'est un individu qui était retrouvé effectivement paré avec ses objets. Donc, ce qui permet justement, quand on est archéologue, d'écrire une histoire autour de ce fossile. Hein.
Oui, parce que comme c'était dans la glace, il est mort, où il s'est perdu, où il a perdu son sang, etc. Il est mort sur ce glacier et miraculeusement, si j'ose dire, ça a émergé. Donc, c'est des touristes qui l'ont trouvé. On s'était demandé si c'était un déserteur de l'armée italienne ou autre chose. Et puis, il y a eu des études très minutieuses qui ont été faites par les archéologues autrichiens et on continue à en découvrir.
Alors, c'est
encore.
Ça, parce qu'on poursuit en fait les recherches autour de sa dépouille.
Oui, sur les études, d'autant plus que les méthodes et techniques de l'archéologie n'arrêtent pas de progresser. Donc, sur ADN, etc.
C'est ça. Alors, Ötzi, c'est un peu un cas unique, hein, finalement. Une des figures les plus reconnaissables de cette période. Hein, et qui arrive pile au milieu, d'ailleurs, de la période.
Oui, c'est ça. Le moment où on passe progressivement de villages, d'agriculteurs relativement paisibles, ouverts, etc., à une période qui va devenir de plus en plus violente.
C'est quoi la plus grande invention, finalement, ce bouleversement, cette révolution néolithique? C'est l'agriculture.
Oui, bien sûr.
C'est
bien
ça,
sûr.
Vraiment, incontestablement, c'est ce qu'il faut retenir.
Oui, bien sûr, parce que l'agriculture permet, comme disait Théodore Monod tout à l'heure, assure la sédentarité et sécurise les ressources alimentaires. Et à partir de là, on voit effectivement la démographie humaine exploser. Les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3 à 4 ans.
Chasseuses-cueilleuses, vous dites?
Oui, vous vouliez dire comment?
Ben, je sais pas.
C'est des femmes de chasseurs-cueilleurs.
Oui, mais justement, c'est intéressant du point de vue des rôles et de la.
Oui, bien sûr. On estime qu'effectivement les femmes font plutôt la cueillette, qui est moins valorisée que la chasse, alors que toutes les études montrent que c'est les deux tiers, 70% de l'alimentation réelle vient de la cueillette, mais c'est moins prestigieux que la chasse. Ouais. Elles peuvent faire de la chasse, mais normalement pas au gros gibier. Et en théoriquement pas faire couler le sang, comme l'avait montré l'ethnologue Alain Testard. Elles peuvent plutôt assommer les animaux plutôt que les percer. Voilà. Et les agricultrices, elles, vont avoir un enfant tous les ans, comme c'était le cas dans les sociétés traditionnelles jusqu'au XXe siècle, même si une grande partie mourait très tôt.
Ouais. Donc, on était très occupés quand même à l'époque, et en particulier les femmes, puisqu'il fallait s'occuper des enfants, mais en plus... vaquer aux occupations, qui étaient très diverses d'ailleurs, parce qu'on s'occupait à la fois de la maison, de construction, d'élever aussi des animaux.
Oui, bien sûr. Et de les nourrir pendant les périodes d'hiver, de les soigner. On estime qu'une partie des maladies s'enracinent justement dans l'élevage, à la fois de la proximité des humains et des animaux, et de l'augmentation justement de la
de la population qui favorise les
épidémies. On a des traces des maladies aussi, ça.
Oui,
ça,
maintenant
ça,
on peut...
ça traverse les millénaires.
Il y a des traces sur les os, mais maintenant, grâce à la génétique, à l'ADN, on a pu identifier la peste. Il y a déjà au moins 5000 ans, la tuberculose, etc.
Jean-Paul Lemoule, vous êtes notre invité. Des questions arrivent pour vous sur franceinter.fr. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de cette période qui a bouleversé l'histoire.
J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Corona maubena, kube bene oranini. Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Une âme.
Voilà, c'est Mathieu Chédid avec Toumani et Sidiki Diabaté et une âme.
La tête au carré sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on est en pleine forêt et vous êtes en train de préparer un repas.
Un repas néolithique. Je suis en train de faire de la farine.
Oui.
Bah, j'ai pris des graines d'épeautre et puis un peu de graines de lentilles parce que ça leur donne un petit goût.
Donc l'épeautre, le blé préhistorique.
Oui.
Hein.
Véronique va préparer l'une des plus grandes inventions culinaires du néolithique, des galettes de céréales. Pour cela, elle utilise des répliques d'ustensiles retrouvés en fouilles. La meule en grès et le broyon. Et juste à côté, dans ce pot en céramique, Véronique fait mijoter un autre plat, caractéristique de la cuisine néolithique.
Alors là, je suis en train de préparer un ragoût, puisqu'à partir de cette époque-là, on a des poteries qui permettent de faire de la cuisson bouillie. Alors comme légumineuse, on a des lentilles, hein, Et donc, on y ajoute la viande.
Le ragoût, c'est une recette qu'on fait encore aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr, parce que c'est un plat très nourrissant qui permet de donner à manger à toute la famille et puis qui tient bien au corps.
Et donc, c'est une recette qui a 7000 ans.
Oui.
Voilà, les sources de la gastronomie.
Oui.
Voilà, extrait de la série Sur nos traces d'Arte, la cuisine néolithique Jean-Paul de Moule, vous qui publiez Les 10 millénaires oubliés. Évidemment, vous parlez de domestication, du travail autour des plantes. Est-ce que là, cette petite recette, ce petit repas vous semble très néolithique?
Oui, il est effectivement néolithique, notamment tout l'aspect céréales, galettes, bouillies, etc. Et en fait, on n'était pas prévu pour ça, nous les humains. On était prévu pour une nourriture plus dure, moins sucré, moins molle. Et c'est à partir du néolithique qu'on voit le nombre de caries dentaires augmenter et puis que ça va déboucher sur le fait que sur les 7 milliards d'humains actuels, il y en a presque 1 milliard qui sont en surpoids. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut retourner au paléolithique, mais qu'il faut tenir compte de notre physiologie qui, 10 000 ans, c'est rien, donc qui n'a pas suivi les changements alimentaires radicaux du néolithique.
Vous qui êtes spécialiste du néolithique, est-ce que vous avez déjà fait un petit repas comme ça, typique, pour voir un peu ce qu'on mangeait à l'époque?
Oui, en partie, mais il y a d'excellents livres de cuisine néolithique. Ma collègue Anne-Marie Petrequin, qui fouille sur les bords des lacs du Jura, où on retrouve beaucoup de restes organiques qu'on retrouverait pas ailleurs, à composer des recettes à partir de ce qu'on trouve, notamment, et aussi des études de résidus alimentaires au fond des poteries. Ouais. Donc on a déjà une bonne idée.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, dans cette acquisition de l'agriculture et aussi avec l'élevage, il faut apprendre à stocker aussi les nouvelles denrées. Donc là, il y a tout un travail qui se fait autour de ça. Et du coup, on élève aussi des animaux, on les domestique aussi pour conserver un petit peu ce qu'on stocke chez soi.
C'est-à-dire les animaux vivants, c'est une manière de stocker la viande qui est finalement plus sûre que les animaux morts. Et le stockage, c'est pour les graines, par exemple, il faut les empêcher de germer pour pouvoir les ressemer ensuite. Il ne faut pas qu'elles se détériorent. Donc, il faut des silos, notamment creusés, qui soient entièrement imperméables. Et puis, c'est là qu'on voit au Proche-Orient la domestication du chat vers 8000 ans avant notre ère, justement contre les petits rongeurs.
Donc, c'est ça.
Il faut l'imaginer aussi que tout ça s'est fait par tâtonnement, essais, échecs, etc.
C'est quand même le loup qui a été domestiqué le premier dans toute cette histoire. Hein.
Oui, mais déjà par des chasseurs-cueilleurs en plein paléolithique, il y a le loup. Et là, pas pour être mangé, quoi, même si on peut manger du chien, mais c'est essentiellement une espèce de rapport d'association entre les bandes de loups et les bandes d'hommes, et qui se rendent des services réciproques, qui rendent une chasse plus efficace, garder le campement, etc. Donc ça s'est fait tôt. Donc le principe de la domestication est connu, mais il est pendant longtemps, il n'est pas étendu à d'autres espèces. À partir de moins 10 000, l'environnement devient meilleur également, et dans les régions où ça apporte quelque chose, parce que si vous êtes au milieu des grandes plaines américaines où il y a plein de bisons, vous n'avez pas de raison de vous ennuyer à essayer de domestiquer des bisons. Vous allez en tuer un le jour où vous en avez besoin. Tandis que dans les zones un peu plus intermédiaires, comme au Proche-Orient, là, ça valait le coup.
Ouais. Jean-Paul de Moule, ce qui est intéressant finalement à cette époque aussi, c'est que les hommes comme les femmes sont de véritables scientifiques. Quoi. Ils adaptent la méthode scientifique pour essayer de trouver justement de nouvelles plantes. Donc ils opèrent des croisements, ils font des essais sans arrêt. Donc c'est vraiment l'expérimentation.
Oui, en plus, comme ils sont encore immergés dans la nature, ils sont très proches. Et comme c'était d'abord des chasseurs, ils connaissaient très bien les comportements des animaux. Ils vont développer effectivement toutes sortes de techniques nouvelles qui n'existaient pas jusqu'alors. Et c'est aussi une espèce de recul par rapport à la nature, cette prise de contrôle de la nature qui n'était pas du tout dans l'état d'esprit des chasseurs, qui se vivaient plutôt plutôt comme une espèce animale parmi d'autres, ouais, dont les ancêtres mythiques étaient des animaux. Ça va être un changement radical dans la vision du monde.
Est-ce qu'on a retrouvé des maisons du néolithique en assez bon état pour donner vraiment un aperçu de ce à quoi ça ressemblait?
Bien sûr. Au début, les maisons les plus anciennes sont rondes, comme l'étaient en général les maisons plutôt démontables des chasseurs-cueilleurs. Mm-hmm. Et puis on passe assez vite à des maisons quadrangulaires parce que ça permet de rajouter des pièces beaucoup plus facilement qu'à des maisons rondes. Alors c'est lié après aux matériaux disponibles. C'est-à-dire dans les régions où il y a beaucoup de pierres, on va faire des maisons en pierre, et dans les régions où il y en a moins, on va utiliser le bois et le bois et la terre. S'il n'y a pas de bois non plus, on fait des briques en terre crue comme on a en Mésopotamie. Pour en rester qu'en Europe, dans l'Europe du Sud-Est, qui est la première, puisque le néolithique va arriver par colonisation depuis le Proche-Orient. Ouais. Là, on a des maisons d'assez petite taille, 4-5 mètres de côté. Certaines ont brûlé complètement, donc on sait, comme en Bulgarie, on sait très bien comment c'est organisé. On a aussi même des petites maquettes de l'époque en terre cuite. Et puis quand ils arrivent en Europe tempérée, en Europe centrale et dans la moitié nord de la France, là, on va construire des très grandes maisons jusqu'à 45 mètres de longueur. Donc, il devait être des maisons collectives avec plusieurs familles.
Dans ce que vous décrivez, là, justement, géographiquement, de ce néolithique européen et proche-oriental, finalement, est-ce qu'il y a une sorte d'homogénéité entre les différentes cultures, entre l'Europe de l'Ouest et puis l'Europe centrale?
Faut déjà imaginer un mouvement du Sud-Est vers le Nord-Ouest, donc un rouleau compresseur, un mouvement de colonisation progressif qui met 2000 ans à peu près.
Donc, on part d'où? Le point de départ serait où?
Le point de départ, c'est la Turquie, donc c'est la Grèce, Grèce et Balkans, Grèce et Bulgarie, à partir de 6500 à peu près avant notre ère. Et puis progressivement, on arrive à l'Atlantique entre 4800 et 4500, aussi bien en passant par l'Europe centrale et le bassin du Danube qu'en longeant les côtes de la Méditerranée. Donc à chaque fois, dans une région donnée, les échanges à la fois d'objets, les échanges matrimoniaux font qu'il y a une certaine homogénéité dans le style des objets, par exemple le décor des poteries, et puis ça évolue en même temps dans le temps, les modes évoluent comme partout ailleurs.
Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'un néolithique asiatique, d'un néolithique américain aussi, parce qu'on a une vision très européenne quand même des choses?
Le mot de néolithique, effectivement, a été inventé au 19e siècle par des préhistoriens européens, et en prenant des racines grecques. C'était Pierre Néo, nouveau, donc pierre nouvelle, c'était quand apparaît la pierre polie, qui sont des haches pour couper le bois. On parlait de haches de la pierre polie, mais on s'est aperçu assez vite que c'était ce qui était derrière, c'était pas le polissage de la pierre, qui était une technique secondaire, mais que c'était effectivement l'agriculture et l'élevage. Donc le terme de néolithique, après, en plus ou moins employé suivant les régions du monde. On l'emploie en Asie, par exemple, en Chine. On peut parler de néolithique chinois. Il est un peu moins employé dans les Amériques. Mais c'est exactement le même processus que celui qu'on a au Proche-Orient. Il y a 6 ou 7 foyers comme ça d'invention autonome et avec des espèces animales et végétales communes. Différentes.
Elles sont différentes ou elles sont communes?
Non, c'est au Proche-Orient, ça va être le blé, l'orge, alors que ça va être le millet en Chine du Nord autour du fleuve Jaune et le riz autour du Yangtze. Et ça va être le maïs et la pomme de terre comme plante principale en Amérique, avec en plus le tabac.
Mais sur les grandes inventions, sur les inventions majeures, justement, à cette époque, est-ce qu'on voit des similitudes pourtant à des milliers de kilomètres de distance?
On voit des...
Est-ce que le cerveau a fabriqué les mêmes choses finalement au même moment, quel que soit le lieu géographique?
À peu près. Pourquoi d'ailleurs ce moment-là? C'est parce que depuis 115 000 ans, on était dans la dernière période glaciaire, jusqu'à moins 12 000, moins 10 000. Donc c'était moins favorable à ce genre d'expérimentation. Ça apparaît ensuite dans plusieurs régions du monde, là où c'était possible, là où on avait les bonnes techniques, mais pas partout. Ça aurait pu exister. Donc il y a aussi des choses qui sont passées dans la tête des gens qu'on mesure plus ou moins bien dans la culture. Mais sinon, ça ressemble à peu près à la même chose. C'est-à-dire on se sédentarise, on cultive des plantes, on a les techniques des faucilles en silex, des meules à broyer, à peu près des haches pour couper le bois. Elles se ressemblent beaucoup d'un bout à l'autre du monde parce que effectivement, ça va dans le même sens. Mais au départ, il n'y a aucun contact.
Jean-Paul Demoule, on s'offre une coupe de champagne avec Jacques Higelin et on revient vers vous dans un instant avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr.
On est du vin.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucien, elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu vas marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière d'Orgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques. Et ne se dressait un bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus passe grief de leur peine.
Champagne, Jacques Higelin sur France Inter pour parler du néolithique avec mon invité Jean-Paul Demoule et ce livre Les 10 millénaires oubliés chez Fayard. Pas de champagne au néolithique, on n'a pas encore inventé les bulles.
Le champagne sans doute pas, mais l'alcool, oui, on a des traces de vin en Iran vers moins 5000 et puis les Gaulois, on a la trace de bière, bon, les Grecs, Romains, etc.
Donc... Ouais. Et question sur le fromage, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec le docteur Dupagne justement, à quel moment c'est inventé ça?
c'est le problème du fromage, c'est que les adultes toléraient pas le lait, comme c'est le cas encore pour les asiatiques, par exemple. Donc c'est une modification génétique qui apparaît dans les derniers millénaires avant notre ère, et on a effectivement des passoires à fromage à partir de -3000, -4000.
Oui. Alors Patrice nous dit, comment peut-on dire que la violence est apparue au néolithique? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des rivalités claniques et des meurtres au paléolithique? Alors ça justement, hein, c'est un des sous-titres du livre, c'est la guerre, précisément, les chefs, la chefferie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vraiment parce qu'on a plutôt une image d'une période assez paisible et calme, or vous dites que c'est exactement le contraire quand même.
C'est là que ça s'étend effectivement. De la violence entre mâles humains, je pense qu'il y a toujours eu, on a des traces ponctuelles de massacres au paléolithique, notamment au Soudan et au Kenya.
Donc vraiment de massacres. Hein.
Oui, de massacres, ouais. de petits groupes, mais on a deux cas sur toute la surface de la Terre, pour l'instant en tout cas. Mais au néolithique, au début, c'est effectivement pacifique, on ne voit pas de traces de violence dans les tombes, les villages sont ouverts, et puis au cours de néolithique, on voit qu'ils s'installent plutôt sur des hauteurs, ils se fortifient, et puis les traces de blessures se multiplient sur les squelettes.
C'est la sédentarité qui crée la violence ou pas alors, finalement, et l'acquisition des biens?
L'augmentation de la démographie humaine, de la population humaine, qui fait que les territoires deviennent plus convoités, plus d'autres phénomènes, comme l'enlèvement des femmes, par exemple, qui est bien attesté historiquement.
Pourquoi?
Il faut demander aux hommes. Mais l'histoire de Rome commence officiellement avec l'enlèvement des Sabines, l'enlèvement des femmes de la tribu des Lapites par les centaures, c'est un thème très fréquent.
Donc il y a un brassage génétique aussi qui opère finalement avec ces enlèvements.
Oui, bien sûr.
Puisqu'on va chercher des femmes assez loin parfois.
Ça pouvait être parfaitement pacifique, mais effectivement là encore les analyses d'ADN et puis de la méthode qu'on appelle le strontium montrent que souvent, en Europe en tout cas, où on a beaucoup plus d'études, il y a exogamie, c'est-à-dire que les femmes viennent d'ailleurs, et quand on avance vers l'âge du bronze et l'âge du fer, on peut montrer qu'il y a des échanges sur plusieurs centaines de kilomètres au moins au sein des élites.
Mais on voyage comment à l'époque? Alors on est sûr, parce que la roue existe déjà.
La roue est inventée au cours du néolithique vers -4000, -3000.
Donc il y a des charrettes après?
Après il y a des charrettes d'abord à roue pleine et puis ensuite les roues à rayon vers -1700 qui permet le char de guerre et puis le cheval qui commence à être monté aussi à la fin de cette période.
Jean-Paul Demoule, on va écouter cet extrait du journal de France 2 en 2010 autour de l'histoire d'un Français amputé au néolithique.
Ce squelette, c'est celui d'un homme décédé il y a près de 7000 ans. Il fut découvert dans une sépulture néolithique lors de fouilles archéologiques en Seine-et-Marne. Mais mystérieusement, son avant-bras gauche a disparu. C'est en observant plus précisément l'extrémité de l'humérus gauche que les archéologues ont trouvé l'explication.
La partie qui nous a frappé est ici.
Une coupure nette, signe d'une amputation.
Et les os étaient partiellement fracturés, très probablement. Il fallait couper tout l'avant-bras. Donc ils ont utilisé très probablement une lame de silex, qui est le matériau qu'ils ont le plus coupant.
Une opération réussie, puisque l'homme a survécu, comme en témoigne la cicatrisation osseuse. Mais quel personnage pouvait donc être ce premier amputé sur le sol français?
On peut simplement penser que peut-être il s'agissait d'un guerrier, puisque la présence d'un pic et d'une hache peuvent effectivement nous indiquer qu'on avait affaire à quelqu'un qui a fait la guerre.
Voilà, ça devait pas être très agréable de se faire amputer, évidemment. À l'époque, l'anesthésie existait, Jean-Paul Demoule, ou on y allait comme ça, direct dans la chair
Comme pendant la guerre de 14, où il fallait juste serrer les dents dans les amputations. Mais effectivement, c'est une amputation avec cicatrisation. Il y en a d'autres exemples aussi, on découpe on trépane le crâne et on a des preuves que ça a cicatrisé après. Ouais. C'était fait aussi avec du silex. Ouais. Et
donc on avait déjà un geste aussi chirurgical à ce moment-là était capable d'opérer, en tout cas d'exercer certaines opérations. Est-ce que la violence physique se voit archéologiquement parlant justement?
Oui, puisqu'on parlait de Tsi tout à l'heure, qui a sa flèche plantée dans le dos et l'ADN sur ses poignards, donc elle se voit le plus facilement, c'est sur les ossements, parce que c'est le mieux conservé. Donc, on a les quatre crânes enfoncés de flèches fichées dans les vertèbres. Donc, c'est comme ça qu'on l'établit. Effectivement, sur un cas particulier, ça peut être une scène de ménage ou une bagarre locale. Ah ouais. Mais,
c'est l'épée que de la cuillère, voilà. Effectivement.
Mais quand c'est général...
Alice demande sur franceinter.fr, est-ce qu'au niveau de l'existence individuelle, la révolution néolithique n'a pas été une catastrophe, contrainte de sédentarité, surcroît de travail, risque de pénurie alimentaire ? Qu'en pose votre invité ?
C'est un vaste débat là-dessus. Effectivement, le temps de travail augmente, les maladies, la violence, etc. Alors, est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? La question n'a pas vraiment de sens. La réponse, c'est comment on va organiser les sociétés qui, une fois que c'est établi. Donc, il y a des sociétés effectivement qui vont être plus violentes que d'autres. En même temps, eh bien, ça allonge la durée de vie. Il y a d'autres avantages.
Jean-Paul nous dit toujours sur franceinter.fr, au néolithique, on peut parler des premières inégalités avec les premiers conflits. Alors, inégalité homme-femme, alors ça, pour le coup, c'est clair aussi. La domination masculine.
Oui, parce que les tombes les plus riches sont des tombes masculines, toujours, statistiquement, quoi, à 90%. On voit effectivement au début du néolithique, quand on fouille un cimetière, les gens ont à peu près tous la même chose. Et puis au cours du néolithique, si on prend le cas de l'Europe, mais c'est la même chose ailleurs dans le monde, à partir de 4500 avant notre ère, on voit des individus beaucoup plus riches que d'autres. C'est là qu'on commence à construire les dolmens qui, sur la côte atlantique, qui sont des chambres funéraires pour les gens importants. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ça se développe.
Comment ils sont comportés alors les hommes pendant cette période zappée, comme vous la décrivez
Je pense qu'ils sont pas toujours extrêmement bien comportés. On a des cas au cours du néolithique où il y a un homme enterré et puis une femme au crâne enfoncé qui est à côté de lui dans une position secondaire. Il est évident que les traces de domination sont fortes. Ce qu'on voit aussi, c'est que les représentations, les figurations qu'on a au paléolithique et au début du néolithique, on représente plutôt des femmes, donc fécondité, sexualité, et puis que au moment où la guerre et les inégalités émergent vraiment, c'est les représentations masculines qui vont devenir majoritaires et jusqu'à nos jours, quoi, si on regarde les...
Donc pas de société matriarcale
Ça, c'était un peu le fantasme des archéologues mâles et puis de certains mouvements féministes de penser qu'au début les femmes avaient le pouvoir, mais en fait ça c'est très idéologique. Il y a beaucoup de mythologies qui vont dire les femmes avaient le pouvoir. C'est aussi l'histoire de nos malheurs, ça vient de Ève ou de Adam ou de Pandore, finalement les hommes ont été obligés de reprendre le pouvoir.
Et puis Fabrice nous dit, contrairement à ce qu'a dit votre invité tout à l'heure, le néolithique figure bien au programme de la 6e depuis 2 ans.
Oui, il est revenu, mais justement j'avais déjà en 2012 justement protesté vigoureusement et toutes sortes d'autres collègues, donc ils l'ont rétabli mais que pour la 6e, alors que tous les problèmes dont on discute aujourd'hui seraient intéressants à tous les niveaux de la scolarité.
Et ce sont les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. C'est publié aux éditions Fayard et vous en êtes l'auteur, Jean-Paul Demoule. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi.
Merci.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Allez, on revient au 21e siècle avec vous, Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez d'une étude sur le fromage, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude ? Bon ou mauvais pour le cœur, le fromage ?
Eh bien, bon Mathieu, définitivement bon. Ah, le fromage, qui est pourtant bourré de graisses animales saturées, est déconseillé depuis près d'un demi-siècle par les cardiologues. Or, une analyse récente réalisée par une équipe chinoise, vous savez, ceux qui essayent d'essayer de nous piquer tout notre beurre, eh bien, la réhabilite définitivement. La consommation de fromage protège le cœur et diminue de 15% le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébrale.
Voilà, badaboum, encore un mythe qui s'écroule finalement.
Enfin, on pouvait s'en douter un peu puisque les Français sont à la fois les champions de la consommation de fromage et aussi du faible nombre d'infarctus. Alors attention, il ne s'agit pas d'une énième étude contredisant les précédentes. Non, c'est une synthèse, on parle de méta-analyse réalisée à partir des meilleures études prospectives, c'est-à-dire les plus fiables, comme je vous l'expliquais la semaine dernière à propos du glyphosate. Alors, ce qui frappe dans l'article publié cette semaine dans le très sérieux European Journal of Nutrition, c'est la rigueur de la méthodologie de cette méta-analyse. Alors, bon, une méta-analyse, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste à sélectionner le plus objectivement possible des études ou des enquêtes de bonne qualité scientifique qui traitent du même sujet. Il reste alors à fusionner les données de toutes ces études pour en faire une sorte de synthèse statistique. Et donc, cette méta-analyse est réputée plus fiable que chacune des études prises individuellement. Alors, dans ce long article, les docteurs Chen, Wang Tong et leurs collègues décrivent chacune des étapes de leur travail avec précision, sans doute à la demande des relecteurs, car cela fait presque 2 ans qu'ils ont soumis leur manuscrit à l'éditeur. Sur ces sujets qui fâchent, les navettes entre les auteurs et les relecteurs critiques sont souvent nombreuses. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce travail est fondamental et fera date dans le débat sanitaire sur les fromages, sachant que sur le plan gastronomique, il n'y en a, à mon sens, plus du tout.
Alors justement, à propos de gastronomie, Dominique, est-ce que l'étude s'est intéressée à l'impact de chaque famille de fromage avec ses effets bénéfiques ou pas?
Non, Mathieu, non. Dommage. Et c'est à mon avis la principale limitation. Alors, au vu du gradient de mortalité cardiovasculaire lorsque l'on s'éloigne de la Méditerranée, j'ai le pressentiment qu'un fromage de chèvre ou de brebis sera plus protecteur qu'un camembert ou un emmental, mais à ce jour, aucune preuve n'étaye cette hypothèse. Enfin, si vous voulez échapper aux huîtres et aux sempiternels foie gras pour le réveillon, je vous suggère le grand plateau de fromage en plat unique, accompagné d'un assortiment de salades vertes et de pains variés. Le fromage n'est jamais aussi bon que lorsqu'on a faim, et en plus, on se soigne.
Ah ben alors, dites donc, si c'est le docteur qui nous le dit en plus. Alors, on peut aussi conseiller à nos éditeurs de voir ou revoir le documentaire d'Anne-Georges « Cholestérol, le grand bluff » qu'Arte a rediffusé la semaine dernière, et qui a reçu le prix du public à l'occasion du dernier festival Paris Science. Il est disponible en replay sur le site d'Arte jusqu'à Noël. Merci Dominique, à la semaine prochaine.
À jeudi prochain.
Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Vincent Godard et Loïc Frapsos qui étaient à la technique. Demain, vendredi, on se retrouve avec notre formule club.